Est-ce que je peux vous poser une question un peu personnelle ce matin, vu qu'on est entre nous, d'accord? Est-ce que vous vous considérez comme croyant ou comme non-croyant? Quand on parle de spiritualité en France, on a tendance à mettre les personnes dans deux catégories. Il y a les croyants et il y a les non-croyants. Mais est-ce que ces catégories existent vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment deux catégories différentes de la population? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Ou alors, sommes-nous tous en quelque sorte des croyants? Et c'est plutôt l'objet de notre croyance, de nos croyances, de notre adoration qui va changer d'une personne à une autre. Nous continuons ce matin notre série, on parcourt le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, on arrive au chapitre 5, on va le lire ensemble et on va voir le choix que nous avons tous à faire entre célébrer des idoles ou donner gloire au Dieu des cieux. C'est un peu un long chapitre, mais on va le lire ensemble, cette histoire de Belshazzar. Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires et au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna qu'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines, les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine. Ils écrivèrent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de la main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées, ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. » Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda ? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi, accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme aux bœufs, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait le compte de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La nuit même, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Célébrez les idoles ou donnez gloire au Dieu des cieux. On va prier ensemble. Seigneur, on prie que ce matin, tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, qu'on puisse comprendre ce récit de la vie de Daniel et son explication pour nos vies à nous aujourd'hui. Merci de nous donner un cœur pour ta parole. Et une parole pour nos cœurs. Amen. Célébrer les idoles, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Dans ce passage, on retrouve Daniel à Babylone. Entre 20 et 30 ans se sont écoulés entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Daniel doit avoir 85 ans environ. Il n'est pas le jeune homme qu'on a tendance à imaginer. Beaucoup d'années se sont passées depuis qu'il est arrivé à Babylone. Les rois même se sont succédés. On retrouve Nebuchadnezzar, plutôt, qui est décédé, celui qui était roi au chapitre 4. Et maintenant, on a un de ses successeurs, Belshazzar. On est à peu près, selon les commentaires, le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. Comme ça, on a le contexte. Regardez dans les versets 1 à 4. Le roi Belshazzar, il offre un grand festin. Plus de 1000 convives sont invités avec les femmes et les concubines. Ça fait beaucoup de monde. En plus, ce sont les hauts fonctionnaires de l'époque, le gratin, si vous voulez, de la ville de Babylone. Et il n'est pas rare à l'époque d'avoir ce genre de festin. Si vous regardez dans le livre d'Esther, au chapitre 1, on voit aussi l'empereur qui tient ce genre de grand festin. Mais ici, le roi, sous l'influence de l'alcool, va faire quelque chose pour marquer ses convives. Certainement un peu saoul, car à l'époque, juste par superstition, on n'aurait certainement pas osé faire ce qu'il allait faire. Le roi va faire venir apporter les coupes qui venaient du temple de Jérusalem. Et il le fait pour, regardez au verset 4, ils burent du vin. Ils boirent du vin dans ces coupes, mais pas seulement cela, au travers de ce geste fortement symbolique. Il célèbre les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. Cette histoire de coupe nous est familière. Chapitre 1, verset 2, nous parle de Nebuchadnezzar, le roi, qui fait apporter toutes ces coupes, qui les enlève du temple de Jérusalem. Et ici, Daniel, avec tous ses adjectifs, nous dit que ce sont les coupes du temple de Jérusalem, de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait emportées. On ne peut pas passer à côté. En faisant cela, on apprend que Belshazzar adore et célèbre les idoles. malgré l'exemple de son prédécesseur, Nebuchadnezzar, qui a été, au chapitre précédent, humilié devant Dieu et avait finalement décidé de s'humilier lui-même et d'accepter la grâce. Belshazzar, lui, il savait cela, mais malgré le fait qu'il le sache, il se tourne quand même vers les idoles. Mais vous savez quoi? C'est pas surprenant. C'est pas surprenant, car nous avons tous été créés pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Et si l'on ne l'adore pas lui, on va adorer d'autres choses. D'autres choses, les idoles, vont prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pas surprenant que Belshazzar ou nous-mêmes nous tournions si rapidement vers les idoles, car, comme le dit Timothée Keller dans son livre, je vous lirai un passage tout à l'heure, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Le cœur humain est comme une usine à idoles. Et notre inclinaison naturelle est à célébrer des faux dieux, des idoles. Alors peut-être il faut clarifier un peu ce mot « idole » et ce qu'on veut dire à travers cela. Quand vous pensez à une idole, à quoi est-ce que vous pensez? Peut-être vous pensez à ces statues de divinité que l'on trouve dans différentes cultures, religions, spiritualités. Moi-même, lors de mes études, j'ai effectué un stage de plusieurs mois à New Delhi, en Inde. Et quand j'étais au bureau, j'avais mes collègues, ils avaient des petites photos d'idoles, de statues de divinités, de Ganesh ou d'autres divinités hindoues, sur leur bureau. Donc, quand on pense à idoles, on pense très vite à ces idoles-là, certainement ce qui ressemblait un peu à ce qui se faisait à Babylone à l'époque. Ou alors, peut-être, on pense à l'idole dans le sens d'une personnalité. Oui? Ah, lui, c'est mon idole. Elle, c'est mon idole. Mais est-ce que une idole se limite à une statue en bois, en bronze, ou juste à une personnalité célèbre? Alors dans son livre, Timothée Keller, dans son livre « Les idoles du cœur » nous dit cela. Il y a un chapitre, un paragraphe sur comment fabriquer un Dieu. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination. Et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que le perdre vous ôterait tout désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles, sans y réfléchir à deux fois. Vos idoles peuvent être votre famille et vos enfants, votre carrière et votre réussite professionnelle, financière, votre réputation et l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, ou encore une relation romantique, vos compétences, vos talents, l'approbation de vos pairs, la sécurité, les circonstances favorables, votre beauté ou votre intelligence, une grande cause politico-sociale, votre moralité ou votre vertu, ou même votre succès dans le ministère. Une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, « Si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. » On peut dire que ce type de relation, on peut décrire ce type de relation de plusieurs façons, mais la meilleure est peut-être de l'appeler adoration ou croyance. La question n'est donc pas croyant ou non-croyant, mais plutôt en qui ou en quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu places ta confiance pour ta vie? En quoi trouves-tu ton sentiment de protection, de valeur personnelle, de sécurité, d'épanouissement? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir pour l'avenir? Belshazzar et ses convives célèbrent les dieux en or et en argent. Et si aujourd'hui encore, on se tourne très vite vers les idoles, ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Parce que notre cœur est une fabrique à idoles. C'est le mode par défaut de nos cœurs. Célébrer les idoles, c'est pas surprenant. Et pourtant, c'est futile. Ça sert à rien. Regardez les versets 5 à 9. Une main écrite sur le mur devant le chandelier. La fête ici tourne mal quand même, hein, vous êtes d'accord? C'est un peu la panique à bord. On retrouve le roi quand même, qui est devant ses hauts fonctionnaires avec sa posture de roi. Il a littéralement les hanches qui se déboîtent, les genoux qui claquent entre eux. C'est une vraie scène de panique, tellement que les invités sont consternés. Ils n'ont jamais vu le roi dans cet état-là. Imaginez même nous, on verrait le président de la République quand il y a une crise claquer des genoux à la télévision, on se dirait mais il se passe quelque chose de vraiment grave. Le roi est tellement en panique, il appelle tous les sages du royaume, mais ils sont incapables de lire et comprendre ce qui est écrit au mur. Le roi est encore plus effrayé, il change de couleur une deuxième fois. Je sais pas s'il pouvait être plus pâle encore qu'il l'était la première fois. À ce moment-là, devant l'incapacité des sages à pouvoir lui expliquer les écritures sur le mur de plâtre, il se dit certainement mince. Mince. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vais mourir. En demandant les coupes et en buvant du vin dedans, le roi a mis au défi le Dieu d'Israël en public devant tout le gratin de Babylone. Et ce n'est pas anodin, car ces objets du culte faisaient partie du temple à Jérusalem. C'est comme, ce qu'il a fait, c'est comme s'il disait « Mes idoles sont plus fortes et plus puissantes que le Dieu d'Israël. » Sauf que ces idoles sont des faux dieux. Et lui, il a mis au défi de vrais dieux, le Dieu vivant, le Dieu des cieux. On va lire le verset 23 ensemble. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple. Vous les avez utilisées pour boire du vin. Toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Il a mal choisi ses dieux apparemment, Belshazzar. Il ne voit pas, ils n'entendent pas, ils ne savent rien, ils ne connaissent pas ce qui va arriver à l'avenir. Ils ne savent même pas que, alors que Belshazzar fait la fête ce soir-là, dans quelques heures, Babylone va tomber et lui-même va perdre sa vie. Et ses idoles, on le voit clairement dans ce texte, ne peuvent absolument rien pour lui, c'est futile. L'argent ne peut pas l'aider, il offre le pourpre et un collier en or à celui qui pourrait l'aider, l'argent ne peut rien pour lui. Pour tout le reste, vous avez Eurocard, Mastercard. Je suis désolé. L'argent ne peut absolument rien pour Belshazzar. Les divinités ne peuvent pas l'aider. Il appelle les astrologues, les prêtres chaldéens, les devins. Tout le monde, tous les sages de Babylone ne peuvent pas l'aider. C'est futile. Le pouvoir qu'il détient ne peut pas l'aider. Je donnerai la troisième place du royaume à celui qui m'aide. Mais non, ça ne sert à rien. Et même son nom, Belshazzar, que Bel protège le roi, c'est ce que ça signifie, est presque ironique cette nuit-là alors qu'il va perdre sa vie sous la protection de ses idoles. Les idoles ne peuvent rien pour le roi, ne peuvent rien pour lui, c'est futile. Ces idoles ne parlent pas. Et vous savez, c'est pas la première fois dans la Bible où on entend cela, que les idoles ne parlent pas. Regardons ensemble le prophète Ésaïe, deux versets dans le chapitre 44, 9 à 11, je vais vous les lire. Voici ce que le prophète Ésaïe a dit. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles en témoignent elles-mêmes. Elles ne voient pas et ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en tirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là et qu'ils se présentent tous et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en tirer aucune utilité? Célébrer les idoles, c'est futile. Elles ne savent rien, elles ne sauvent pas. Alors que le Dieu des cieux, lui est vivant, puissant, il nous parle, il connaît toutes choses, il connaît notre avenir, il le tient dans sa main, il nous entend, il est notre créateur. C'est futile de se confier dans les idoles. On le voit dans la ville Belshazzar, mais pour nous, est-ce qu'on le réalise réellement? Réalisons-nous que c'est futile de nous confier dans notre réussite professionnelle? Que se passera-t-il en cas d'échec? Que se passera-t-il le jour de notre retraite? Si c'est futile de se confier dans son statut social, cela veut aussi pour le statut marital. La famille, c'est futile car même si ces choses nous rassurent, elles ne peuvent pas être la fondation de nos vies. Elles peuvent nous être enlevées et ne peuvent pas nous sauver. Même les bonnes choses à la mauvaise place, c'est de l'idolâtrie. Et malheureusement, nous, on fonce souvent, vous savez, tête baissée dedans. C'est pas surprenant, car nos cœurs sont une fabrique à idoles, mais c'est futile et ça ne sert à rien. Et la réalité, c'est qu'on le voit plus facilement dans la vie des autres que dans notre vie à nous. Là, on voit Belshazzar, on a envie de lui dire, arrête, c'est futile. Tu te dresses contre le Dieu du ciel, il va intervenir. Tes idoles en argent, c'est des statues, elles peuvent rien pour toi, elles t'entendent pas, elles te parlent pas, tu les as construites. Tu les as fait construites. Construire, pardon. Quand on voit ce gars qui court de fille en fille, cette fille qui court de gars en gars, peut-être on se dit, mais c'est futile, arrête. Ce parent qui néglige sa famille car il recherche désespérément l'approbation par la réussite professionnelle. Arrête, c'est futile. Cette mère ou père de famille qui se ronge d'anxiété car elle veut être la maman parfaite, le papa parfait. Ou alors courir après la jeunesse éternelle ou la beauté physique alors qu'on vieillira tous et on mourra tous un jour. On le voit chez les autres. Et pourtant, on est si rapide à plonger dedans, tête baissée. On pense que c'est pour les non-croyants. Célébrer les idoles, c'est futile. C'est pas surprenant, c'est futile, mais c'est grave. C'est grave. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas sans conséquence. Finalement, regardez, à partir du verset 10. Ici, la reine-mère, il semble que ce soit la reine-mère, on a déjà ses concubines qui sont là, elle connaissait ce qui s'était passé avec Nebuchadnezzar. Elle intervient pour rappeler qu'il existe un homme, Daniel, qui a en lui l'esprit des dieux saints. La reine-mère explique en quoi Daniel est différent, qu'il a une sagesse extraordinaire. Et vu tous les adjectifs utilisés dans le texte, il est clair pour le lecteur que Daniel a ses capacités parce que Dieu les lui a confiées. Ça ne vient pas de lui-même, c'est Dieu ici qui va agir au travers de son serviteur Daniel. Belshazzar se décide donc d'appeler Daniel avec quand même une petite pointe d'orgueil. Hein. Vous verrez quand il l'appelle, c'est toi l'exilé de Juda que mon prédécesseur Nebuchadnezzar a fait venir de Juda. Ok, d'accord, sympa l'introduction quand même pour la seule personne restante dans le royaume qui pourrait éventuellement l'aider. Daniel ici, verset 13, refuse l'argent et les récompenses. Il se place dans la posture d'un prophète de l'Ancien Testament qui ne veut pas, qui veut communiquer le message de la part de Dieu. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le corrompre. Il ne veut pas apporter le message qui plaira au roi, mais il veut communiquer la vérité qui vient de Dieu, même si c'est difficile à entendre. Et dans les versets 17 à 21, c'est intéressant, Daniel commence, pas par lui expliquer tout de suite ce qu'il a écrit au mur et ce que cela signifie. Il commence par lui rappeler une histoire que peut-être il aurait dû se souvenir. L'histoire qui était juste le chapitre précédent. L'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, rempli d'orgueil, obstiné jusqu'à l'arrogance, précipité, dépouillé, chassé. Waouh, des mots durs et pourtant vrais. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Verset 21. Jusqu'à ce qu'il s'humilie ce roi prédécesseur et qu'il reconnaisse que Dieu est souverain, qu'il tient tout dans sa main, qu'il est en fait le vrai roi des rois, que le vrai trône, c'est celui du ciel, pas celui qui est ici dans le monde, même si tout le monde s'agenouille devant l'empereur. Et au verset 22, Daniel, là, il passe à Belshazzar. Il dit, et toi? Déjà, c'est mal parti, hein, quand la personne se tourne et dit, ok, voilà ce qui est arrivé à Belshazzar, et toi? Et toi, tu n'as pas humilié ton cœur? Alors que tu savais tout cela. Son cas est même encore plus grave. Il connaissait le témoignage de la vie de Nebuchadnezzar. Cela aurait dû lui pousser à renoncer aux idoles et à se tourner vers Dieu. L'histoire de Nebuchadnezzar aurait dû revenir tout de suite dans sa tête lorsqu'il a vu cette main et cette inscription sur le mur. toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est contre le Dieu du ciel que tu t'es dressé. Même à Babylone, Dieu reste le Dieu des cieux. Même en France, Dieu reste Dieu. Même si on ne croit pas en lui, Dieu reste Dieu. Sa royauté, sa toute-puissance, sa souveraineté ne dépend pas de l'adoration qu'on va lui porter. Il est Dieu. Il est souverain sur tous les rois de la terre. Belshazzar a mis au défi le Dieu du ciel. Comme s'il disait, toi Yahweh, toi Dieu là, des Israélites, t'as humilié mon prédécesseur. Mais moi je suis plus fort que toi. Ça nous arrive jamais de penser ça, que non mais les autres, je prends ma parenthèse. Peut-être même, on ne sait pas, peut-être qu'il avait entendu parler des prophéties que Daniel avait faites sur le fait que Babylone allait tomber. Peut-être il avait entendu ces prophéties d'Ésaïe qui disaient que Babylone allait tomber dans les mains des Perses. Et peut-être qu'il se dit dans son cœur, on ne sait pas, regarde, Dieu des Israélites, t'es où ? 1000 convives, on s'élève, je prends même les coupes. Mais il n'a aucune idée que ce soir-là, Babylone est sur le point de tomber. Il s'est dressé contre Dieu, mais la réalité, c'est que dès que nous tournons vers les idoles, nous, on passe pas à Belshazzar maintenant, c'est nous. Dès que nous tournons vers les idoles, que nous confions en autre chose que Dieu, nous dressons contre le Dieu du ciel. Nous déclarons, j'ai pas besoin de toi. Je suis plus fort que toi. Tu me prives de liberté, on est mieux sans toi. Regarde, on sait comment vivre. On n'a pas besoin de ton aide, pas besoin de ta protection, pas besoin de ta provision, regarde ma réussite professionnelle. Pas besoin de ta présence, regarde ma famille et mes enfants, me comble. Il n'a pas donné gloire au Dieu qui tient notre souffle et tous nos chemins dans sa main. Le reconnaître comme Dieu, c'est cela lui donner gloire. Accepter son autorité bienveillante, accepter qu'il conduise nos vies, se nourrir de son amour pour marcher dans ses chemins. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous d'ailleurs. Dieu veut montrer sa grâce envers même le roi de Babylone. Il l'a fait une fois, il le rappelle à un deuxième roi, avec une inscription qui l'avertit à nouveau. Mais ici, à la différence de Nebuchadnezzar, on n'a aucun signe précurseur qui nous montrerait que Belshazzar, lui, va se repentir. La conséquence arrive, le jugement est prononcé, et voici ce qui est écrit sur le mur, verset 25, on va le lire ensemble. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et a mis fin. Pesez, tu as pesé dans ta balance, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ici en araméen, on a des unités de mesure. C'est ce qui était écrit sur ce mur-là. Peut-être que sans les voyelles à l'époque, c'est comme ça qu'on écrivait, c'était compliqué de pouvoir le déchiffrer. Daniel, lui, a cette capacité de Dieu. Le déchiffre, mais même une fois déchiffré, imaginez, mine, cycle, demi-cycle, c'est comme si on écrivait 500 grammes, 500 grammes, 10 grammes, 5 grammes. Merci. Merci pour le message, ça m'a beaucoup touché. On comprend que Belshazzar ne comprenne pas ce message et besoin de l'aide ici de Daniel, surtout de Dieu qui le révèle. Daniel l'interprète comme 500 grammes, 500 grammes, compter, 10 grammes, peser et trouver léger, 5 grammes, la moitié, divisé. Compter comme nos jours sont comptés sur terre. Dieu les connaît exactement. Il tient notre souffle et tous nos chemins dans ses mains. Il comptait le royaume de Babylone et savait le nombre de jours de ce royaume. Il connaît le nombre de jours des royaumes de cette terre, de chacune de nos vies. C'est vrai, il connaît le nombre de jours de chacune de nos vies. Pesé, 10 grammes, là, un cycle, t'as été pesé sur la balance, tu as été trouvé léger, face à la justice de Dieu. Trop léger. 5 grammes divisé la moitié, ici les Mèdes et les Perses vont se partager le royaume. Dieu va juger le roi, le royaume va être divisé, car Dieu reste souverain et il reste le juge qui est réellement sur le trône. C'est pas facile pour Daniel de partager ce message, pas forcément facile pour moi non plus aujourd'hui de l'expliquer, car le jugement de Dieu est une réalité. Il est juste et nous serons tous jugés un jour. Cette apparition de la main sur le mur nous rappelle presque une autre main, la main de Dieu qui a écrit sur les tablettes, sur le mont Sinaï, les 10 commandements. Ici, la main montre le jugement qui va arriver. Vous voyez, souvent, on pense que Dieu va nous juger en nous comparant aux autres. Lui, il a fait quelque chose de plus grave que moi, et on peut se le dire entre nous, hein. Quand on regarde les informations, on peut tous dire ça. Lui, il a fait quelque chose de plus grave que moi, donc moi, je suis tranquille. Et on se remet pas en question. Mais la justice de Dieu, elle ne fonctionne pas comme cela. Dieu ne juge pas en comparant le comportement de quelqu'un par rapport à celui d'un autre. Il compare notre vie, notre comportement par rapport à sa loi, à ses commandements. Et nos cœurs sont tous des fabriques à idoles, tous déréglés. Comme si on essayait d'accorder cette guitare en l'accordant par rapport à une autre guitare. Mais si la guitare de départ est désaccordée, si même le plus juste de tous les hommes est tellement pécheur qu'il ne peut pas accéder au paradis, comment on fait? On s'est tous comparés à lui et aux autres, mais en fait on a tout faux, on est pesé sur la balance et on le trouvait extrêmement léger. Célébrer les idoles, c'est pas surprenant, c'est futile, c'est grave. Mais, on peut lever la tête. Ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas la seule option. Ce texte résonne pour nous comme un appel qu'il est possible aujourd'hui de se détourner des idoles pour donner gloire au Dieu des cieux. Même la vie de Daniel, coincé à Babylone tant d'années, est un exemple pour nous que l'on peut se tourner et accueillir la grâce de Dieu. La vie de Belshazzar est un témoignage à la fois de la futilité de célébrer les idoles, la gravité, mais et du danger si on ne se repent pas. Et c'est donc un appel urgent pour nous pour la repentance. Un appel à identifier les idoles de nos vies qui peuvent s'accaparer nos cœurs. Ça pourrait être peut-être différente pour chacun d'entre nous. S'en détourner par la grâce de Dieu pour se tourner vers le vrai Dieu. Le chapitre 4 nous montre un roi qui est averti, humilié par Dieu et goûte à la grâce de Dieu. Et ici, dans le chapitre 5, le chapitre parallèle, on a l'exemple malheureux et triste de Belshazzar qui ne se repent pas. C'est une grâce pour nous d'avoir ces exemples-là. Alors que tu savais tout cela, nous sommes informés. La repentance est un choix personnel. Mais c'est aussi un choix urgent. Belshazzar n'a pas écouté la réalité de cette urgence-là. On pense toujours qu'on a la vie devant nous, non? Quand j'aurai 50 ans, désolé pour ceux qui ont 50 ans ou plus, pour les plus jeunes, quand j'aurai 50 ans, je donnerai ma vie à Dieu, je lui rendrai gloire, je suivrai Jésus-Christ. C'est toi qui tiens ton souffle et tes chemins dans ta main? On fait pas ça pour donner peur aux gens, hein. Pas du tout. Mais pour une réalité. Réalité d'une urgence à se tourner vers Dieu et accueillir sa grâce. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous tourner vers lui. Ici, quand on regarde l'exemple de Belshazzar, qui pourtant, à un moment donné, a eu les genoux qui ont claqué. Il a dû prendre conscience à un moment donné. Peut-être même comme quand on viendrait dans une réunion d'église, vous savez, qu'on est touché, on se dit « oui, c'est vrai, il faut que je réfléchisse à ces choses ». Et pourtant, il n'a pas changé. Parce qu'il existe une énorme différence entre entendre parler de la repentance, connaître son urgence, intellectuellement, mais saisir la grâce et se repentir en pratique, saisir la main de Dieu si on veut. qu'il tend pour nous sauver en Jésus. Parfois, peut-être que ça vous est arrivé de dire à Dieu une prière, même les plus athées le disent. « Si Dieu, tu me sortes de cette situation, je crois en toi. » Et Dieu intervient et la situation passe et on se tourne pas vers lui. Il suffit pas juste d'avoir des émotions de crainte ou de tristesse comme l'a eu ici le roi Belshazzar. La repentance, c'est quelque chose de dynamique. C'est un mouvement que l'on fait. C'est un demi-tour. On est face aux idoles et on décide de se tourner vers Dieu et c'est sa grâce qui nous permet de faire ce changement dans notre vie. C'est une démarche active qui produira ensuite du fruit dans nos vies. C'est venir au pied de la croix, là où Jésus est mort pour nos fautes, et recevoir le pardon, la grâce, la miséricorde qu'il nous donne. On dit parfois que la miséricorde, c'est la corde que Dieu nous tend dans notre misère. On peut venir à des réunions d'église pendant des années, et pourtant ne jamais vraiment donner les clés de sa vie à Jésus-Christ. On a trop souvent décrit la conversion en disant « Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte-le dans ta vie, il réglera tous tes problèmes. » En d'autres termes, accepte Jésus dans ton royaume, il sera à ton service. Rien de différent finalement des idoles. Accepte-le dans ton royaume, il sera à ton service, tu resteras le roi de ta vie, de ton royaume. Alors que la vraie conversion, là, on est attiré par grâce à Dieu. C'est pas de laisser Jésus entrer dans mon royaume, c'est plutôt qu'il m'ouvre les portes pour que je puisse entrer dans le sien. Là où il est roi. Ne plus vivre pour mon royaume ou celui du monde, et vivre pour lui et son royaume, qui est bon, qui est parfait, plein d'amour, juste. Au travers de la repentance et de la foi en Jésus, c'est Jésus qui m'ouvre les portes et m'accueille sous sa royauté. Ça change peut-être, non, de ce qu'on imagine quand on parle de conversion. C'est réellement de prendre la couronne qu'on a mise sur notre tête et au pied de la croix de réaliser que Dieu nous donne une seconde chance et de dire Seigneur. C'est ce que ça veut dire Seigneur, non? C'est pas juste un mot pour dire Dieu et l'appeler « Oh, oh !» Tu es le Seigneur, je pose la couronne à tes pieds, je l'ai pris. C'est toi qui tiens mon souffle, c'est toi qui tiens mes chemins dans tes mains. Et tu me donnes une occasion de recevoir la grâce et le pardon aujourd'hui de toutes mes fautes. Je veux te suivre. Je veux suivre un roi comme toi. Le roi des cieux qui descend sur terre. Qui nous avertit. Mais bien plus que cela. Il y a 2000 ans, il est mort sur la croix pour nos fautes. Ressuscité d'entre les morts. Et donc si l'on est chrétien aujourd'hui, et si on laisse la place aux idoles dans nos vies, on passe à côté du cœur de la vie chrétienne. Qui est de marcher dans l'intimité de notre nouveau maître, Jésus-Christ. De servir lui et son royaume ici-bas, un peu comme Daniel à Babylone. Dans une société entourée d'idoles, il a continué à donner gloire au Dieu des cieux. J'aimerais terminer en vous citant une petite citation de l'auteur John Piper. Il dit cela. La question essentielle à se poser dans notre génération et dans toutes les générations est celle-ci. Si tu pouvais avoir accès au ciel, au paradis, sans aucune maladie, avec tous les amis que tu as sur terre, tous les plats préférés et les loisirs que tu aimes le plus, tous les paysages magnifiques, tous les plaisirs physiques auxquels tu as pu goûter, sans conflit relationnel ou de catastrophe naturelle, serais-tu satisfait de ce ciel-là ? Si Christ n'y était pas. Serais-tu satisfait de ce ciel-là si Christ n'y est pas? Car Christ, Jésus-Christ, est le véritable trésor. Connaître Dieu, connaître Christ, vivre sous sa royauté, c'est le véritable trésor. Jean nous dit dans Jean 17, 3, on a étudié ce texte il y a quelques mois à l'église. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Célébrer les idoles, c'est pas surprenant. Notre cœur est une fabrique à idoles. C'est futile, ça sert à rien. C'est grave. Mais grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, ce n'est plus la seule option. Venons à Jésus-Christ, plaçons notre confiance dans le Dieu qui tient notre souffle et tous nos chemins dans sa main. Demandons à Dieu de nous aider à identifier les idoles dans nos vies, parfois même les bonnes choses qui sont à la mauvaise place, pour rendre à Dieu la première place, celle qui lui revient. Dieu tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins.